Aujourd'hui, les Sassanides avec Clarisse Ehrenschmidt.
C'est sur les conseils perfides de César que Crassus entreprit sa fameuse expédition contre les Parthes, davantage attirée, il faut bien le dire, par les richesses de l'Iran que par la gloire militaire dont le conquérant des Gaules lui avait laissé entendre qu'il se couvrirait à bon compte. Et de fait, Crassus, parvenu sur les lieux en 54 avant Jésus-Christ, se mit à rançonner les régions rançonnables du pays tout en rêvant de s'emparer du reste. Au point que le roi des Parthes, Orodès II, lui envoya un ambassadeur pour lui demander s'il venait porter la guerre en mandataire de son peuple ou en simple particulier que son goût du pillage entraînait au-delà de ses instructions. « Je te le dirai à Séleucie, » répondit Crassus. « À Séleucie, » répliqua le Parthe, « regarde plutôt la paume de ma main, elle se couvrira de poils avant que tu ne voies Séleucie. » Et l'ambassadeur avait raison. L'Iran était bien un des derniers coins du monde où s'improvisait général. Après avoir multiplié les erreurs, Crassus était écrasé à Carrhae quelques mois plus tard. 10 000 prisonniers, 20 000 morts, dont Crassus et son fils, un désastre comparable à ce que sera plus tard celui des légions de Varus en Germanie. L'affaiblissement progressif de l'Empire séleucide avait en effet permis aux Parthes de dominer l'Iran pendant plusieurs siècles sous la dynastie des Arsacides. Et la grande affaire de cette dynastie a été effectivement la lutte contre les Romains qui, à ce moment-là, ont pris en somme le relais des Grecs. Alors, dans ce registre, les Parthes ont montré une grande capacité défensive, comme Antoine d'ailleurs a pu se rendre compte quelques 20 ans après Crassus, mais il faut bien dire qu'ils se sont révélés incapables de créer un pouvoir fort et conquérant. Et il va falloir attendre la dynastie des Sassanides, c'est-à-dire la fin du second siècle après Jésus-Christ, pour assister à une renaissance de l'Empire perse. Clarisse Ehrenschmidt.
Au début du IIIe siècle, une petite famille de nobliaux, qu'on rattache d'habitude à un ancêtre qui s'appelle Papak et qui était lui-même officiant à la ville qui s'appelle Ispar, c'est-à-dire à côté de Persépolis, officiant au temple d'Anaïta, c'est du moins ce que la tradition iranienne dit, eh bien, un de ses fils prend le pouvoir sur place, vint les représentants du dernier roi Parthe, Artaban IV, et puis, peu à peu, rentre en guerre avec Artaban IV, et en 224 de notre ère, le bat et occupe Ctésiphon. L'empire sassanide est fondé à partir de la Perside, c'est-à-dire sur la même base humaine que l'empire achéménide, et probablement en reprenant la tradition de la gloire achéménide passée. Il est évident qu'elle est présente dans la mémoire, ça c'est absolument clair. Et c'est d'autant plus évident que les textes sassanides ont une titulature royale étrangement proche des textes achéménides, alors qu'ils ne pouvaient plus lire le cunéiforme vieux perse. Le cunéiforme vieux perse n'était certainement absolument plus lu, mais dans la mémoire orale, on savait relativement ce dont il était question, c'est-à-dire comment le pouvoir royal était fondé et énoncé. Alors, l'Empire sassanide commence donc au début du IIIe siècle de notre ère et dure jusqu'à la bataille de Qadisiyeh et la destruction de l'Empire sassanide par les armées musulmanes qui prennent l'Iran aux environs de 650 de notre ère. Tout à ce moment-là, l'Iran continue d'exister, comme vous savez. Mon Dieu, ça a été quand même le moment où le monde arabe a, pour finir, appris énormément de choses de la tradition iranienne. Mais en tout cas, là, la puissance iranienne autonome s'écroule.
Pour fixer les idées, d'abord on a quelques grands rois, dont Shapur, on va en reparler tout à l'heure, et puis un peu plus loin, on a Khosroès, je crois, qui lui reconstitue alors carrément jusqu'à l'Égypte l'ancien empire achéménide.
Il y a deux grandes périodes dans l'empire sassanide. Le début, c'est fondé par un personnage qui s'appelle Ardeshir, hein. Artaxasta, c'est-à-dire un peu le même, c'est en fait le même nom que Artaxerxès, mais prononcé dans la langue du moyen iranien de cette époque, et on dit Ardeshir en moyen iranien. Et ce personnage, c'est lui qui fonde la dynastie sassanide, qui a une chance folle, une fois de plus, et qui cristallise les forces iraniennes, militaires, religieuses, politiques, et qui prend la place. C'est-à-dire l'Iran, à ce moment-là, est maître de la Mésopotamie, hein, et maître du plateau iranien. Enfin, les Sassanides récupèrent donc les ruines de l'Empire couchant, c'est-à-dire l'Afghanistan. Pas du tout les royaumes de l'Inde, absolument pas. Les limites de l'Empire sassanide sont grosso modo le Séistan avec un petit bout du Pakistan actuel, l'Afghanistan, et pas du tout l'au-delà de la Moudaria, qui n'appartient pas aux Sassanides. Et ils occupent également donc tout le plateau central de l'Iran, l'Azerbaïdjan bien évidemment, la Médie, la Perse et évidemment la Babylonie et la Mésopotamie du Nord. La capitale de l'Empire sassanide, c'est Ctésiphon, c'est-à-dire la même capitale que précédemment, dans la région de Babylone, qui reste quand même la grande ville, la grande région de population importante. La difficulté principale pour l'Empire sassanide d'un point de vue militaire, c'est de nouveau l'Arménie. Les Parthes se sont disputés avec les Romains pour l'Arménie, parce que l'Arménie était une région importante pour les Romains, et les Sassanides vont se disputer avec les Romains d'abord et ensuite avec l'Empire byzantin à propos de l'Arménie. En plus, l'Arménie devenant chrétienne, il va y avoir un problème de contact religieux entre l'Iran sassanide mazdéen et l'Empire byzantin chrétien, et surtout l'Arménie devenue chrétienne par la suite.
Alors, cela nous amène directement aux problèmes religieux qui sont considérables, dans la mesure où il semble bien que l'Empire sassanide a eu, lui, quand même, une politique religieuse, au moins à partir d'un certain moment, assez précise. Et alors, on a d'abord le nom de Manès, dont on ne peut pas ne pas parler, et puis on a aussi le mazdakisme, je crois, j'ai toujours peur de me tromper quand je prononce ce mot.
Ah oui, ça c'est sûr qu'il y a eu une politique religieuse nette pendant les Sassanides. Pourquoi ? C'est parce que au début de l'Empire Sassanide, sous le roi qui s'appelle Shabour, s'est produit la fondation du manichéisme. Le mani était un noble d'origine arsacide. Arsacide, ça veut dire faisant partie de la famille régnante parthe. Et dont le père n'était pas arsacide, mais par sa mère, qui avait été élevée dans la religion, une religion proche de celle des Mandéens, une religion, je crois, de baptistes, et de secte des baptiseurs, je crois, et qui a fondé sa propre religion après avoir étudié le zoroastrisme, mais également le christianisme, également, mais peut-être même essentiellement, le bouddhisme. Mani a donc imaginé de fonder une religion universaliste qui serait la réunion et en même temps qui prendrait ce qu'il y a de mieux dans toutes les religions et qui parachèverait les révélations antérieures. Donc il a fondé cette religion-là, qui est passée dans la mentalité occidentale comme le manichéisme, c'est-à-dire une religion fondée sur une différence fondamentale entre le bien et le mal. On donne à Mani l'idée fondamentale du dualisme. Bon, cette religion a eu pour finir un succès fou en Iran au départ. Il y a pratiquement converti le roi. Mais il y a eu une réaction de la part du clergé, réaction menée par le chef des mages, qui se dit en iranien Mobedan Mobed, c'est-à-dire le chef de l'église mazdéenne d'Iran, qui a mené véritablement une cabale et ensuite une confrontation théologique entre Mani et lui-même. Ce chef des mages s'appelait Kirdir et il a donc organisé une confrontation entre lui-même et Mani. Confrontation théologique. Le plus beau dans cette histoire, c'est que lui-même représentait la religion mazdéenne de l'Empire sassanide, et en même temps, il était le juge. Alors, l'affaire était réglée d'avance. Évidemment, Mani a perdu, et Mani a été jeté en prison, et mort, il avait 65 ans, dans des conditions assez dramatiques, je crois. C'est un véritable martyr. Alors, sur place, c'est-à-dire en Iran, les manichéens ont été pourchassés et même vraiment éliminés, tandis que le manichéisme lui-même s'est propagé de façon gigantesque vers l'Asie centrale et vers la Chine, d'une part, d'autre part, vers l'Ouest et surtout vers l'Égypte. Une grande part des textes manichéens que nous avons viennent d'Égypte et sont écrits en grec. Ça n'a pas eu une influence sur l'histoire religieuse iranienne, non, puisqu'il a véritablement été éliminé, je crois, sauf évidemment dans l'épisode de Mazdak. Bon, mais ça a surtout servi dans la crise politique et religieuse du moment de Chabour et de Bahram, ça a servi à fonder une religion d'État au début de l'Empire sassanide, ce qui est une histoire fondamentale. Vous savez, ce sont les crises qui permettent de prendre des décisions drastiques et de fonder des organismes, et certainement le manichéisme a été l'occasion de fonder l'église mazdéenne proche de la royauté, une église d'État, si vous voulez. Ce n'est pas exactement une église d'État, évidemment, mais c'est un État dans l'État. C'est-à-dire que les mages et les hôtels du feu et tout ce qui était autour de la religion possédaient des terres, pouvaient lever tribut et diriger en partie la justice et l'enseignement, et donc étaient un pouvoir extrêmement important dans la société sassanide. On ne peut pas imaginer et décrire la société sassanide sans dire que ce qui était fondamental, c'était l'appartenance par le sang à la grande noblesse ou au reste de la population, la propriété du sol, la grande noblesse étant propriétaire de parts gigantesques de territoire, le roi évidemment également, le clergé enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une toute petite part de la population qui possédait les plus grandes richesses, l'eau et la terre.
Fait allusion tout à l'heure à un épisode Mazdak. Alors il faudrait peut-être nous préciser de quoi il s'agit et quelle est la relation éventuelle avec cette religion d'État dont vous parlez.
Alors nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait deux grands moments dans l'histoire sassanide de l'Iran antique. Donc le début de l'Iran, le début de l'Empire sassanide, 3e, 4e siècle, avec l'installation d'une société hiérarchisé, avec à sa tête une famille royale, c'est-à-dire la famille des Sassanides. C'est une famille, quelques familles alliées, 6 familles, ça fait 7 familles en tout, et puis qui forment la haute noblesse, et puis une petite noblesse, et puis la grande masse des paysans qui travaillent la terre et qui fournissent l'essentiel des richesses. Bon. Ce pouvoir royal est en même temps assuré et théologiquement défendu par l'Église mazdéenne, qui le fonde et en même temps en est aussi une sorte d'ennemi de l'intérieur. L'Église mazdéenne est une véritable puissance qui donc occupe le territoire, occupe les terres, prélève également des impôts et gère la société en même temps avec la dynastie des Sassanides. Alors tout cela fait que dans les périodes où il y avait des récoltes moins bonnes ou bien un pouvoir royal moins fort, eh bien le paysan local et surtout les commerçants, les bourgeois ou la petite noblesse n'étaient pas en situation de s'assurer une survie facile. Bon. Et alors le 5e siècle de notre ère sous l'Empire sassanide est une période où le pouvoir royal est amoindri. C'est-à-dire que la haute noblesse choisit le roi à l'intérieur de la famille sassanide et le grand clergé mazdéen a une puissance gigantesque contre la puissance royale. Donc, le pouvoir royal étant affaibli, la haute noblesse en profite et le clergé également. Là-dessus, à la fin du 5e siècle de notre ère, se produit l'épisode mazdakite. Mazdak est un personnage dont c'est le nom, Mazdak, Mazdaka. C'est formé sur le nom de Mazda, qui veut dire, qui est un vieux nom iranien qui veut dire la sagesse, qui forme également le nom de Ahura Mazda, le dieu dont on a parlé toutes les dernières émissions. Mazdak, donc, décrète que il faut supprimer le mal sur cette terre et que le mal vient de la différence dans l'établissement de la société. C'est-à-dire que pour supprimer le mal, il faut supprimer les différences vis-à-vis des biens. Et ces biens sont la terre, l'eau et on ajoute toujours les femmes. C'est la tradition de dire que Mazdak a pris les femmes là où elles étaient et il les a distribuées. Bon, ce qu'il en est, c'est plus ou moins sûr, évidemment. Ce qui est sûr, c'était que le mariage était, dans la mesure où il fallait donner des biens au père de la mariée, était certainement quelque chose de difficile pour un paysan pauvre. Ça l'est toujours, hein, dans des tas de pays du monde, hein, quand il faut acheter, mythiquement, symboliquement, la fille au père. Donc, Mazdak crée une religion qui n'est pas une religion différente du zoroastrisme. Il se situe à l'intérieur de la tradition zoroastrienne en disant bien qu'il ne chasse pas les dieux du zoroastrisme, mais il veut revenir, disons, à une situation plus juste. Donc, il s'agit, pour revenir à une situation plus juste, d'éliminer les injustices et les inégalités. C'est une révolte, plutôt qu'une révolution, théologique et sociale.
Alors, je crois qu'il trouve d'abord un appui auprès d'un roi dont j'ai oublié le nom.
Tavod. Et cet appui, il le trouve évidemment auprès de ce roi et des fils de ce roi, qui, après de multiples péripéties, s'appuie sur les Mazdakites. Pourquoi ? Parce que les Mazdakites représentent une force populaire qui permet au pouvoir royal de se réimplanter contre la noblesse et le clergé. Le Mazdakisme est un événement politico-religieux qui a fondamentalement servi à la royauté iranienne, à la dynastie sassanide iranienne, de reprendre le pouvoir contre le clergé et la grande noblesse. Donc, Kavod règne jusqu'au 510, je crois. Oui, c'est ça, 510. Et il met à la tête du royaume son fils Khosro, qui deviendra Khosro Ier, qu'on traduit d'habitude par Khosroès, qui est la forme latine, et qui, lui, élimine physiquement tous les Mazdakites. Il élimine physiquement les Mazdakites à un moment où le mouvement Mazdakite ne lui sert plus. Son père et lui-même rétablissent l'autorité dynastique sassanide contre les Mazdakites d'un côté, de l'autre côté, contre la noblesse et contre le clergé. À ce moment-là, la puissance sassanide est rétablie, la grande noblesse pratiquement mise totalement à plat, hein, le clergé est considérablement appauvri, et le roi, Khosroès Ier, peut instaurer des réformes fondamentales. Les réformes de Khosro sont absolument énormes et d'une extrême modernité. Ce qui s'est passé, c'est que Khosro a réformé complètement le mode de prélèvement des tributs, ou plus exactement des impôts. Il a fait mesurer la terre, mesurer le nombre d'arbres fruitiers évidemment, et on a fait un calcul sur plusieurs années de récolte, de la récolte moyenne. Donc, le paysan pouvait calculer sur sa récolte moyenne ce qu'il devait comme impôt. Alors qu'auparavant, avant de payer ses impôts, il fallait que le percepteur passe pour voir les récoltes. Donc, et on ne pouvait pas toucher aux récoltes. Donc, si le percepteur avait 3 semaines de retard, ou 15 jours de retard, les récoltes étaient fichues. Et donc, tout était perdu. Alors que là, un calcul moyen sur quelques années permettant d'établir le revenu moyen d'une terre permettait aux paysans de savoir ce qu'il pouvait garder pour les impôts et garder pour lui. Donc, ça a été une réforme économique moderne, d'une certaine façon, une statistique et un arpentage et un calcul des terres. Non seulement il y a eu ça, il y a eu également le fait que la haute noblesse étant rabattue, Khosro s'est appuyé sur la petite noblesse de village qu'on appelle les Derkan, qui sont l'équivalent, si vous voulez, en Occident, des chevaliers. Noblesse qui, jusque-là, était une noblesse pauvre, avec peu de terres et son armement propre, et qui est devenue la base de l'occupation militaire et administrative de l'Empire sassanide, deuxième partie, c'est-à-dire sixième siècle essentiellement. Ça a été la gloire la plus magnifique de l'Iran de cette période-là. Il y a un fonctionnement industriel réel. Khosro implante des véritables industries, par exemple du tissage. La soie venait de Chine sous forme de fil. Ce fil était teint et tissé en Iran. Donc certains étaient des ateliers privés, mais également des ateliers royaux. Et c'est comme ça que beaucoup d'églises byzantines, mais aussi chrétiennes d'Occident, ont des tissus sassanides. Parce qu'ils étaient extrêmement recherchés dans tout le commerce de la Méditerranée. Bon. Il y avait donc une économie entièrement monétaire. Hein. L'argent circulait sous forme de bimétallisme argent-bronze. La grande monnaie était en argent, toujours frappée par les rois, et il y avait également des pièces de bronze pour les petits échanges, probablement à distance limitée. Bon. Il y avait également des grands marchés organisant la vente où se réunissaient ceux qui vendaient des produits agricoles ou les produits des troupeaux ou les objets manufacturés, enfin manufacturés c'est beaucoup dire, les objets des ateliers et les objets de l'artisanat. Donc au fond, un monde qui ressemble quand même d'assez proche à ce que les visiteurs occidentaux du XVIe siècle vont rencontrer en Iran, d'une certaine façon, sans le monde musulman, mais en fait quelque chose d'assez proche. Le monde moderne de l'Iran commence à Khosrow pour moi, et c'est lui qui inspire toute la littérature classique de l'Iran. Hein? La royauté iranienne, dans la conscience persane des grandes époques 10e, 11e, 12e siècle de la grande littérature persane, c'est Khosrow, c'est-à-dire ce roi sassanide du 6e siècle. Pourquoi ? Parce que, du point de vue intellectuel et artistique, c'est une période d'une extrême richesse. Khosrow invite les savants grecs de l'académie au moment où l'académie est fermée, l'académie d'Athènes est fermée, ils se réfugient à Ctésiphon, ils y restent un an, ils s'y ennuient comme des rats morts et ils filent en Égypte. Ça n'empêche que quand l'académie est fermée par l'autorité byzantine, c'est en Iran que les philosophes néoplatoniciens arrivent. C'est en Iran également que viennent la tradition médicale indienne, la musique.